Bonsoir, il est 18h, le moment de votre émission Une heure en Palestine, comme tous les mercredis sur Radio Galère 88.4. Émission animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité et BDS Provence, qui anime l'émission. Je suis avec Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Bernard.
Et je suis Bernard. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter nos pages Facebook, Palestine 13 et BDS Provence. Vous pouvez aussi nous écrire à assopalestine13@gmail.com et bds.provence@orange.fr. Merci à Sidi qui assure la technique de l'émission. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. On se souvient que le président de la République, lors de son premier mandat, avait lancé l'idée que Gisèle Halimi pourrait rejoindre le Panthéon. Mais il avait reculé lorsqu'il avait appris ce qu'il ignorait. Gisèle Halimi avait défendu des responsables du FLN pendant la guerre d'Algérie. Il revient à la charge pour un hommage dans un sens de l'histoire qui montre plutôt de l'opportunisme, si on en croit Serge Halimi, le fils de l'immense avocate. Hommage national à Gisèle Halimi. Son fils Serge refuse d'y assister. Le journaliste, l'un des fils de Gisèle Halimi, l'avocate décédée en 2020, ne participera pas à cet hommage national à l'avocate prévu aujourd'hui même, car il revient en pleine mobilisation contre une réforme des retraites que la militante féministe aurait combattue, a-t-il annoncé dimanche. Serge Halimi, ancien directeur du Monde diplomatique, dit avoir été subitement informé, entre guillemets, cette semaine, par la présidence de la République, en même temps que la presse, que cet hommage aurait lieu mercredi 8 mars, lors de la journée internationale des droits des femmes. Je n'y participerai pas. La décision de l'Élysée intervient avec plus de 2 ans de tergiversation, et alors que le pays est mobilisé contre une réforme des retraites extrêmement injuste, dont les femmes qui occupent les métiers les plus difficiles seront les premières victimes, a souligné Serge Halimi dans une déclaration transmise à l'AFP. « Ma mère aurait défendu leur cause et manifesté à leur côté. Le 8 mars sera la meilleure façon d'honorer sa mémoire et ses combats », a ajouté le journaliste qui a précisé à l'AFP n'avoir jamais eu de contact avec l'Élysée ni avec aucun officiel depuis le décès de sa mère. Serge Halimi rejoint ainsi la position exprimée par Violaine Lucas, la présidente de l'association Choisir la cause des femmes, fondée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir en 1971. Organiser cet hommage national en pleine contestation contre la réforme des retraites relève d'une instrumentalisation politique, a estimé Madame Lucas, qui ne participera pas non plus à la cérémonie prévue au Palais de Justice de Paris. Avocate, femme politique et écrivaine, Gisèle Halimi, décédée le 28 juillet 2020 à 93 ans, a fait de sa vie un combat pour les droits des femmes. Elle a notamment œuvré pour la dépénalisation de l'avortement, puis pour sa prise en charge par la Sécurité sociale. Auparavant, Elle avait dénoncé l'usage de la torture pendant la guerre d'Algérie par les militaires français, ce qui lui a valu une arrestation et une brève détention. Voilà, nous allons...
Ce qui n'est pas dit là-dedans, c'est qu'elle a aussi défendu la cause du peuple palestinien de façon importante aussi.
Oui, c'est donc d'accord. Pour ça qu'on en parle aujourd'hui d'ailleurs.
Tout à fait. Voilà. J'ai vu ce matin que la Fondation des Femmes, le Planning Familial et la Fédération Nationale de Solidarité Femmes ne participeraient pas non plus à la manifestation organisée par Macron, mais participeraient à la manifestation organisée par des femmes.
Alors, comme aujourd'hui, vous l'avez remarqué, on est le 8 mars, nous allons, toute cette émission, nous vous proposons une série d'entretiens et d'articles rédigés ou réalisés par des journalistes ou des entretiens avec des responsables femmes. Voilà. Donc Jean-Yves, je te passe le micro.
Voilà, avec un petit, juste un petit aparté, puisque très rapidement, on va parler d'antisémitisme. Et avant de revenir sur la cause des femmes, l'Union européenne a dit qu'il est antisémite de qualifier Israël d'état d'apartheid. Donc j'ai trouvé ça dans Palestine vaincra. Et en fait, il y a une question qui a été posée par les députés à M. Joseph Borrell, voilà, c'est ça, qui lui demandait est-ce que les rapports de Human Rights Watch, Amnesty International et B'Tselem, donc qui précisent qu'Israël est un état d'apartheid, sont coupables de fanatisme anti-juif ou d'antisémitisme. Et les députés ont demandé donc au chef de la politique étrangère de l'UE s'il percevait lui aussi Israël comme un état d'apartheid. Et donc, réponse écrite de M. Borrell, qui est une réponse qui a été faite le 20 janvier, dans laquelle il dit « La Commission considère qu'il n'est pas approprié de recourir au terme apartheid en ce qui concerne l'État d'Israël. » Et il a confirmé que l'UE s'appuyait bel et bien sur la définition de l'antisémitisme de l'IHRA.
Et voilà.
Je ne reviendrai pas dessus, on en a déjà parlé. Mm-hmm. Et il a ajouté en insistant, prétendre que l'existence d'un État d'Israël est une entreprise raciste fait précisément partie des exemples que l'IHRA a choisi pour illustrer sa définition. Et dans la foulée, il a renoué des liens avec Israël pour discuter gros sous, etc. Et alors, pour terminer là-dessus, je viens de lire le dernier livre, enfin c'est peut-être pas le dernier, mais c'est un des derniers livres de Shlomo Sand, dans lequel il parle d'une race imaginaire, courte histoire de la judéophobie. Et en fait, il commence par antisionisme, c'est un nouvel antisémitisme. Et il dit, depuis 1967, Israël impose sa loi sur d'autres régions peuplées de Palestiniens, y implante des localités exclusivement réservées aux Juifs, et les Palestiniens de ces régions sont privés de droits civiques et politiques et du droit à une autodétermination nationale. Cette situation supposée temporaire a transformé Israël en un État dans au moins une partie duquel existe depuis plus de 50 ans un régime d'apartheid. Donc si on en croit M. Joseph Borrell, ça veut dire que Shlomo Sand, éminent historien israélien, est antisémite. Très bien, mais maintenant qu'on le sait. Voilà.
Oui, là, juste pour ajouter, la théorie du grand remplacement, là, elle s'impose évidemment en Israël, comme l'a fait remarquer je ne me rappelle plus. Enfin, ce qui est sûr, c'est que leur modèle, c'est l'Amérique. Hein, là.
Tout à fait. Voilà. On a remplacé à la place des Indiens, c'est les Palestiniens. Il cite aussi une petite blague israélienne. Autrefois, un antisémite, c'était quelqu'un qui détestait les Juifs. Aujourd'hui, un antisémite est quelqu'un que les Juifs détestent. Moi, j'aurais dit quelqu'un que les sionistes détestent, oui. Mais non. Donc voilà. Donc je pense que les sionistes nous nous traite d'antisémite.
Alors maintenant, Jean-Yves, regarder le monde en féministe est le meilleur moyen pour le transformer. C'est une belle formule.
Tout à fait. Donc, c'est un article qui est paru dans la revue La Déferlante. La revue La Déferlante, c'est une revue féministe plus. Hein. Mm-hmm. Et donc, en fait, ils ont réalisé un entretien. C'est Madame Sarah Bénichoux, journaliste indépendante, qui l'a fait, avec Olri Noy. Olri, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on le prononce, mais Olri Noy est une journaliste israélienne d'origine iranienne, féministe et militante pour l'égalité des droits. Elle a pris récemment la tête de l'ONG B'Tselem, une des ONG de défense des droits humains les plus actives en Israël. Elle a été une des premières à dire que, effectivement, Israël était un pays d'apartheid, au moins dans la partie Cisjordanie, même si d'autres sont allés plus loin pour dire que c'est dans l'ensemble d'Israël, y compris dans l'État d'Israël lui-même. Donc dans cette interview, elle pointe les faiblesses politiques du mouvement d'opposition. En fait, il y a, donc je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent en ont entendu parler, il y a un projet de réforme de la justice israélienne qui prévoit le transfert partiel du pouvoir judiciaire vers les pouvoirs exécutifs et législatifs. Et la population craint une grande atteinte à la démocratie, si on estime que la démocratie existe vraiment en Israël, ce qui n'est peut-être pas le cas. Hein.
Oui, c'est ce qu'on entend, c'est-à-dire la suppression de la Cour suprême,
qui est le dernier rempart
de la démocratie pour les Juifs. Hein.
Voilà, contre le fascisme.
Oui, mais pour les Israéliens et les Juifs, parce que pour les Palestiniens, il n'y a jamais eu grand-chose de fait du côté de la Cour suprême, si ?
Tout à fait. De temps en temps, elle rendait certains... Quand c'était vraiment flagrant, elle rendait elle donnait des avis en faveur des Palestiniens, mais dans la plupart des cas, effectivement... Elle allait plutôt dans le sens du pouvoir israélien qui disait il faut détruire les maisons, il faut chasser les Palestiniens de tel endroit, etc.
Voilà, donc c'est
remplacé par des Juifs.
Ça risque d'empirer la situation des Palestiniens, mais...
Oui, surtout Netanyahou, donc, il a donné des portefeuilles clés, le portefeuille des finances, le portefeuille de la gestion de la police, de le ministère de l'Intérieur, etc. Tout ça à des militants d'extrême droite suprémacistes juifs. Les Juifs sont au-dessus des autres. Et ces ministres sont coutumiers des menaces et des appels à la violence à l'égard des Palestiniens. Par exemple, après les pogroms dont on va parler qui a eu à Huwara, il y a un ministre qui a dit, c'est le ministre Smotrich qui a dit, mais Huwara, il faut le raser de toute façon. Voilà. Et donc, depuis le début de l'année, il y a eu une cinquantaine de Palestiniens tués, 150 attaques de colons sur des biens palestiniens, tout ça recensé par une agence de presse palestinienne Wafa. Et le 27 janvier, 7 juifs israéliens sont morts dans une attaque perpétrée par un jeune Palestinien. Et vendredi dernier, donc ça c'était dans le mois de février, un attentat palestinien à la voiture Bélier a fait 2 morts, dont un enfant de 6 ans, à Jérusalem. Et dans ce contexte, le journal a voulu recueillir la voix d'Orly Orly Noy.
Noy.
Et donc, interview réalisée en 2 fois, le 16 janvier et le 7 février 2023.
Alors,
et depuis, Israël a annoncé la légalisation de 9 colonies en réponse aux attentats meurtriers à Jérusalem.
Alors,
je te laisse la parole.
On va prendre les entretiens avec Orly Noy, on va se le partager. Je vais faire les questions et les réponses pour ce qui me concerne moi, et tu prendras la suite. Donc, la première question posée à Orly Noy est la suivante. Quel regard portez-vous sur les manifestations de rue qui s'intensifient ces dernières semaines en Israël? Réponse. Parmi les personnes qui manifestent, beaucoup s'identifient au centre et à la gauche. Elles disent défendre la démocratie et s'opposer à ce qu'elles considèrent comme un coup d'État politique. Mais mon avis est plutôt qu'elles ont peur, avec ce nouveau gouvernement, qu'Israël perde la place que le pays occupe depuis longtemps au sein du club des nations démocratiques. Malgré le rythme effrayant des meurtres commis par l'armée israélienne, la violence de l'occupation en Cisjordanie et l'apartheid dans lequel sont maintenus les Palestiniens et les Palestiniennes sont les angles morts de cette mobilisation. On a même vu apparaître au sein de ce mouvement un collectif de soldats de réserve pour la démocratie, ce qui signifie que parmi les manifestants, on trouve potentiellement des soldats hommes et femmes, qui ont participé aux attaques récentes contre les camps de réfugiés palestiniens, comme à Jenin le 26 janvier dernier. Plus éloquent encore, début février, le grand mouvement non-partisan Notre Chemin, situé au centre-gauche, a lancé un appel à la mobilisation afin de protéger la Cour suprême, dans l'objectif d'éviter aux soldats israéliens d'être traduits devant la Cour pénale internationale. Ils et elles, les soldats, assument donc que l'armée commet des crimes et veulent lui assurer de pouvoir continuer. Voilà.
Alors autre question qui a été posée. Dans une interview que vous avez réalisée en novembre, Shirin Ebadi, qui a été prix Nobel iranienne de la paix, affirmait que c'est par les femmes que la démocratie pourrait revenir en Iran. Est-ce que la même chose est possible pour Israël ? Donc elle répond
il y a 15 ans, j'ai participé aux activités d'un groupe femmes vraiment badass, la Coalition des femmes pour la paix. Nous avions monté un centre d'information pour identifier les entreprises qui investissaient directement ou indirectement dans la colonisation de la Cisjordanie et démontrer que l'occupation reposait aussi sur la complicité internationale. Donc oui, je pense qu'une vision réellement féministe du monde est l'outil le plus puissant pour le transformer. Mais je constate que malheureusement, ce n'est pas la voie que prennent la plupart des féministes israéliennes aujourd'hui. Ma conviction est que dans ce pays, rien, a priori, ne peut transcender la question nationale, ni les rapports de classe, ni les rapports de genre. Je ne place pas beaucoup d'espoir dans le féminisme israélien, car les organisations qui le composent à l'heure actuelle ne se sont pas emparées des sujets tels que l'occupation et l'apartheid, voire parfois les soutiennent. La figure féministe de référence dans notre pays, c'est Alice Miller, une femme qui, au début des années 90, a saisi la Cour suprême pour obtenir le droit de servir en tant que pilote dans l'armée, c'est-à-dire potentiellement le droit d'aller bombarder la population palestinienne à Gaza. En tant que femme, nous sommes pourtant bien placés pour savoir que c'est l'ensemble des rapports sociaux et politiques qui doivent être questionnés, car rien ne sera réglé par des aménagements à la marge. Le véritable féminisme n'envisage rien de moins que ce dont nous avons tous besoin, la transformation de l'ensemble de la société et des rapports de pouvoir. Et elle continue. Oui. Alors, vas-y, question-réponse.
Donc, on lui posait la question. Vous considériez déjà qu'Israël n'était pas une démocratie avant les élections législatives de novembre dernier, qui ont vu la victoire de la coalition de droite et d'extrême droite. Elle répond, auparavant, les Israéliens ne voulaient pas avoir l'air méchant. Nous voulions coloniser la terre et conserver plus de droits que les Palestiniens, le tout emballé dans un joli papier de manière à ce que ça paraisse acceptable aux yeux des autres nations. Mais désormais, le gouvernement de droite et d'extrême droite se fiche complètement de l'image qu'Israël renvoie au reste du monde. L'expression libre et brutale du racisme et de pratiques fascistes a été totalement banalisée. On voit qu'elle n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. À la création d'Israël en 1948, ce sont des personnes de gauche, exemple David Ben-Gourion, qui se disaient de gauche, qui ont créé le terrain favorable à ce que nous vivons aujourd'hui. Le principe d'un État juif implique forcément un système discriminatoire à l'égard de la population indigène, c'est-à-dire des Palestiniens, même lorsqu'ils ou elles disposent de la citoyenneté israélienne. C'est qu'il y a, on distingue la nationalité, la citoyenneté en Israël. Dans les faits, l'expression « État juif et démocratique » s'avère paradoxale, puisque pour garantir une majorité politique juive, l'État doit s'assurer par tous les moyens que les Juifs constituent une majorité démographique. Elle donne deux exemples. Selon la loi sur la citoyenneté, en tant que juif, je peux me marier avec un étranger, le faire venir en Israël, où il obtiendra la citoyenneté israélienne. Un citoyen palestinien d'Israël ne bénéficie pas de ce droit. Et les Juifs peuvent également revendiquer la propriété de terres ou de biens immobiliers sur la base de titres antérieurs à la création de l'État en 1948, ce qui, dans la plupart des cas, entraîne l'expulsion de Palestiniens. Et les Palestiniens ne peuvent faire de même selon la loi israélienne. Il y a une nouvelle loi qui est en plus en préparation pour déchoir de leur citoyenneté les Palestiniens d'Israël condamnés pour terrorisme. Voilà. Sauf que quand les Juifs font des actes de terroristes, on n'a même jamais envisagé de les déchoir de leur citoyenneté.
Ni même de les condamner.
Voilà. Ni même de les condamner, c'est vrai, la plupart du temps.
Alors, on enchaîne, la question est la suivante. Vous avez dénoncé dans un article récent la solidarité israélienne qui s'exprime fortement avec les femmes israéliennes d'Iran en automne, rappelant que les femmes palestiniennes avaient elles aussi besoin de ce soutien. Comment regardez-vous ces deux situations aujourd'hui ? Réponse : ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient résonne de manière très particulière pour moi, en Iran et en Israël, qui sont à la fois deux pays ennemis et mes deux pays à moi. La population manifeste massivement pour exiger la démocratie, mais tandis que les Iraniennes cherchent à renverser l'État qui les enferme, les Israéliennes se préoccupent surtout de justifier les crimes et les injustices que commet leur pays. Décoloniser notre réalité israélienne ne consiste pas uniquement à obtenir justice pour les Palestiniens, c'est aussi un chemin nécessaire pour nous, Juifs, du monde arabophone et du Moyen-Orient, pour appartenir de nouveau à notre région. C'est aussi pour retrouver ça que je me bats. J'ai grandi en Iran, j'étais une autochtone du Moyen-Orient, cette mémoire est toujours vive en moi, alors que je me trouve à présent enfermé dans une structure coloniale complètement hostile à l'environnement d'où je viens. Mais la question des droits des peuples minorisés se pose également en Iran, et le soulèvement agit positivement puisqu'aujourd'hui il semble difficile d'exprimer autre chose que de la solidarité envers les Kurdes, par exemple. Lorsqu'ils et elles sont ciblés par la majorité farcie, mais ici, en Israël, la solidarité envers les Palestiniens reste une position très marginale qui suscite l'indignation du plus grand nombre, y compris dans le mouvement actuel. Je suis vraiment bien plus optimiste quant à l'avenir de l'Iran que pour le futur d'Israël. Ben, dis donc.
Très, très belle interview, parce qu'elle arrive à parler de tous les problèmes palestiniens. Les Palestiniens, les problèmes de racisme vis-à-vis des Juifs moyen-orientaux aussi. Enfin, franchement, c'est une grande dame, quoi.
Oui, c'est vraiment bien, bien tourné. Oui. Non, mais pour en arriver à conclure qu'elle se fait moins de soucis pour l'Iran que pour Israël, ça, je crois que c'est quelque chose d'épouvantable pour la situation en Israël et la situation des Palestiniens.
Tout à fait.
Alors, maintenant, on va passer à une autre femme, Francesca Albanese, qui est experte à l'ONU pour le Moyen-Orient, je crois, et qui a donné un entretien à
Agence Média Palestine.
À l'Agence Média Palestine. Et le terre est... Et elle déclare l'apartheid, quand elle va en Israël, elle dit l'apartheid est sous vos yeux, partout où vous allez. Alors, Francesca Albanese évoque les récentes attaques dont elle a fait l'objet, définit l'occupation israélienne comme un colonialisme de peuplement et utilise le droit international pour le démanteler. Alors, voilà ce qu'elle raconte. Peu de temps avant d'accepter d'assumer le rôle de rapporteur spécial des Nations Unies sur les territoires palestiniens, Francesca Albanese a reçu un conseil d'un ami israélien. Allez en Israël-Palestine maintenant, car bientôt vous ne serez plus autorisé à y entrer. Albanese, qui connaissait bien le pays, après avoir vécu à Jérusalem et travaillé pendant 3 ans dans l'organisation d'aide aux réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a suivi son conseil et s'y est rendu. C'est en effet son dernier voyage, du moins pour l'instant, depuis sa nomination en avril 2022. Israël, maintenant, lui interdit l'entrée. Dans une interview réalisée dans son lieu de résidence en Tunisie, où elle séjourne avec sa famille pour son travail, Madame Albanese, juriste italienne, raconte que bien qu'elle aurait pu venir en Israël avec son passeport italien, on lui a dit en Israël qu'elle devait demander un visa spécial. Parmi les pays prétendument démocratiques, dit-elle, Israël est le seul à empêcher l'entrée d'un des 55 rapporteurs de l'ONU répartis dans le monde. Même l'Afghanistan, sous le régime des talibans, a autorisé des rapporteurs à entrer sur son territoire. Israël s'est opposé à l'avance à la nomination d'Albanese, notamment parce qu'elle a fait l'éloge des organisations qui ont accusé Israël d'être un État d'apartheid. Le fait qu'elle ait travaillé à l'UNRWA et qu'elle ait coécrit l'un des livres les plus complets sur les droits des réfugiés palestiniens en vertu du droit international n'a pas aidé non plus. Son premier rapport onusien, publié en septembre 2022, a rapidement été suivi d'accusations, on devine, d'antisémitisme. La preuve en est un post qu'elle a écrit pendant la guerre d'Israël contre Gaza en 2014, bien avant qu'elle ne soit nommée à ce poste, disant que les États-Unis sont subjugués par le lobby juif. Albanese a publiquement pris ses distances avec ses commentaires, déclarant que certains des mots que j'ai utilisés pendant l'offensive israélienne sur la bande de Gaza 2014 étaient illicites, analytiquement inexacts et involontairement offensants. Albanese elle-même rejette toute allégation d'antisémitisme. Son rapport soutient que l'occupation israélienne viole l'un des principes fondamentaux des Nations Unies et de la communauté internationale.
Je peux reprendre ?
Oui, vas-y.
Le rapport d'Albanese soutient que l'occupation israélienne viole un des principes fondamentaux des Nations Unies et de la communauté internationale, qui est le droit à l'autodétermination. Elle écrit qu'Israël maintient un régime d'apartheid dans les territoires occupés, mais elle estime que l'efficacité de l'utilisation du cadre de l'apartheid contre Israël est en fait limitée. Le régime présente plutôt des caractéristiques plus claires de colonialisme, de peuplement, et parce que l'idée même des Nations Unies est fondée sur la libération des peuples, sur la base de ce droit à l'autodétermination, le moyen le plus direct de mettre fin à l'occupation est d'insister sur ce droit exact. On sent bien que dans tout ce qu'elle dit, quand même, il y a une base juridique, elle s'appuie sur des termes juridiques très, très choisis. Hein.
Oui, mais c'est surtout qu'elle est d'une compétence extrême en matière de droit international.
Tout à fait.
Et que qui refuse le droit international ? La Russie, les États-Unis, Israël, enfin, les gens qui s'imaginent que le droit, c'est fait pour les autres.
Et tous ceux, quand même, qui les soutiennent, dont la France.
Oui, dans le
parce
cas...
qu'on a beau dire, voilà, oui, dans oui. le cas d'Israël, dans le cas d'Israël, la France soutient Israël, donc et malgré tout ce qu'on peut entendre de la part de nos politiques, le droit international, etc., ils soutiennent Israël, donc ils ne sont pas vraiment pour.
Oui,
ils sont
mais
pour quand ça les arrange.
Le droit international pendant la guerre d'Algérie, c'était
oui,
exactement... Voilà, c'était ça, quoi. On s'asseyait dessus. Voilà. Alors...
La première question que j'ai posée, c'est pourquoi avez-vous pensé qu'il n'était pas utile d'utiliser la définition de l'apartheid dans les efforts visant à mettre fin à l'occupation israélienne ? Alors, elle répond que c'est pas tout à fait ce qu'elle a dit. J'ai dit, la définition du régime qu'Israël maintient dans les territoires palestiniens occupés comme étant de l'apartheid est pratiquement et légalement correcte. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas en Israël, mais cela ne fait pas partie de mon mandat en tant que membre des Nations Unies. Mon mandat ne couvre que la documentation des violations du droit international dans le territoire qu'Israël occupe depuis 1967, c'est-à-dire la Cisjordanie. Et elle dit, c'est tellement évident, c'est sous vos yeux, partout où vous allez. À l'époque, je dis qu'il fallait exiger la fin du régime d'apartheid, mais que cela devait s'accompagner de la prise de conscience que la souveraineté israélienne ne devait pas être automatiquement reconnue au-delà des frontières sur lesquelles l'État d'Israël a été reconnu en 1948. Les gens, je comprends pourquoi les gens ont commencé à soutenir la solution à un seul État. Il ne m'appartient pas de dire s'il doit y avoir un ou deux États. Sur cette question, je suis agnostique. Mais il y a une étape intermédiaire à laquelle on ne peut échapper, c'est le droit des Palestiniens à décider de leur propre sort. Les Palestiniens, jusqu'à présent, ont fait de nombreuses concessions de façon à préserver la possibilité d'un État indépendant. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire que ce n'est pas possible, d'autant que la communauté internationale insiste sur le fait que c'est la seule voie possible. Si c'est le cas, mettons-la en œuvre. La loi est très claire sur ce que cela implique. La clé est le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire la libération du contrôle israélien.
Très bien. Bon, Jean-Yves, tu ne vas pas quitter la parole parce que tu vas nous présenter le morceau de musique qui suit.
D'accord. Voilà. Alors, on va écouter un morceau de musique chanté par Dominique Grange. On a choisi encore une femme. Et elle dit, en 2010, je suis allé chanter à Ramallah, en Cisjordanie occupée, et j'ai vu dans quelles conditions les Palestiniens vivent, confinés sur ce bout de terre. J'ai vu l'armée d'occupation israélienne dans les rues de Jérusalem-Est et ailleurs. J'ai vu les colonies squattant avec arrogance le sommet des collines voler aux Palestiniens. Et partout, j'ai vu le mur de l'apartheid et le mur de la honte. Donc elle a promis aux gens de témoigner. Et cette chanson, « Détruisons le mur », est un témoignage et un hommage aux martyrs de Gaza. On écoute.
Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin, avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés, la mer on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation. Halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria, et Muhammad et Ismaïl? Petit l'occupant et sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, Al-Dala de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère, mon peuple exclu, saigné à mort dans sa prison à ciel ouvert. Petit résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah, chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, disons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra.
Voilà, merci beaucoup.
Alors, on avait parlé de Dominique Grange déjà,
oui,
le mois dernier,
oui,
à propos de l'album de BD de Tardi,
oui,
qu'elle avait post-facé et dans lequel elle parlait d'apartheid israélien. Et pour cette raison, donc, il a été censuré par l'éditeur allemand.
Oui, je me souviens, oui.
Voilà.
Alors, on va continuer sur la lancée des questions à Madame Albanese. Et tu as fini en disant la clé est le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire la libération du contrôle israélien. Et la question qui suit est, pensez-vous vraiment que c'est un moyen plus pratique de faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à l'occupation ?
Alors, elle répond, je ne pense pas offrir un paradigme alternatif. Le droit à l'autodétermination est une autre pièce du puzzle qui donne un sens au cadre de l'apartheid. Les territoires occupés ne sont pas seulement comme l'Afrique du Sud, ils sont comme la Namibie. Namibie qui a été occupée militairement par le régime d'apartheid sud-africain. Une décision consultative de la Cour internationale de justice avait déclaré que cette occupation était illégale. Et si on fait la comparaison avec la Namibie, on comprend mieux les conséquences juridiques d'une occupation illégale et la nécessité de démanteler cette occupation sans condition. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir compte des préoccupations d'Israël en matière de sécurité, bien entendu. Mais Israël ne peut pas garantir la protection du peuple palestinien. L'occupation doit se retirer et à sa place, une force temporaire internationale et indépendante doit entrer. Une force protectrice qui donnera la sécurité aux citoyens des deux côtés, pendant que l'occupation militaire et le projet colonial sont démantelés. On voit qu'elle insiste, hein, vraiment. Mm-hmm. Il y a 700 000 citoyens israéliens dans les territoires occupés. Elle y inclut donc Jérusalem-Est. S'ils restent, cela signifie qu'ils veulent vivre en paix avec les voisins, avec leurs voisins palestiniens.
Oui, mais j'ai été surpris d'entendre de votre part que même selon le droit international, il n'est pas nécessaire que ces personnes soient évacuées.
Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, on ne peut pas résoudre une catastrophe en créant une autre. Hein. Et en fait, donc ça c'est moi qui le dis, hein, et elle dit, une règle s'est développée dans le droit international, exemple le cas de Chypre, qui dit qu'après des années de vie dans un endroit, les gens acquièrent des droits. C'est un point sur lequel il faut se prononcer. Ce qui est clair, c'est que les terres prises aux Palestiniens depuis 67, donc la Naksa, la deuxième Nakba, doivent leur être rendues. Il ne doit pas y avoir de loi martiale ou de présence de l'armée israélienne en Cisjordanie, et Israël ne sera pas en mesure de ne doit pas être en mesure de fournir aux colons, comme il le fait actuellement, des services, des subventions, une protection, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, etc., quoi, la protection aussi. Quiconque choisit de rester sera une minorité en vertu des lois de l'État de Palestine. C'est quand même bien dit, franchement.
Oui, c'est très bien dit, et c'est très clair. Mais qui dit qu'après des années de vie dans un endroit, les gens acquièrent des droits? Oui, mais ça c'est réversible, hein, c'est pour tout le monde. Donc ça veut dire que...
Mais bien sûr,
la partie turque de Chypre, on peut dire que, d'un seul coup, la ligne de séparation... Elle est pas légale, mais on pourrait dire que ceux qui ont occupé le nord, qui s'occupent du nord de l'île, auraient aussi des droits pour rester là. C'est-à-dire, eux, c'est pas la question qui reste, c'est la question qu'ils enlèvent ce mur et qu'ils continuent à vivre. Oui, mais ça pose vraiment.
Si on rend aux Palestiniens les terres qui ont été volées. En fait, ça revient aussi, il faut bien le dire, à reconnaître pour les Israéliens que, en fait, la situation actuelle, ils en sont complètement responsables, et ils en sont responsables depuis la Nakba, quand ils ont chassé les Palestiniens. Donc, à partir du moment où ils reconnaissent ça, ce que demande Albanais, c'est-à-dire ceux qui veulent rester, pourquoi pas, mais... vous restez une minorité et puis il faut que vous viviez en paix avec vos voisins, pourquoi pas?
Voilà. Ok, bon, on continue. Question, les méthodes de l'occupation israélienne sont-elles uniques? Elles ne sont pas uniques, mais elles sont très liées au colonialisme de peuplement. Je suis désolé, je sais que les Israéliens n'aiment pas ce concept. Nous connaissons Masafer Yatta, nous connaissons les démolitions de maisons, mais les aspects bureaucratiques de l'occupation sont moins connues dans le monde. Interdiction de construire, interdiction d'entrer ou de sortir. J'étudie maintenant la manière dont Israël gère l'incarcération dans les territoires palestiniens. Il est horrifiant de voir une méthode d'incarcération aussi étendue, qui est utilisée comme un moyen de dissuasion, comme moyen de punition collective, comme moyen de briser l'esprit, les relations et le tissu social. Et cette méthode est utilisée depuis 55 ans. La détention administrative est très unique à Israël. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas ailleurs, mais de manière massive, à une telle échelle, oui, elle est unique. Je ne pense pas que les gens du monde entier comprennent cela. Autre question. En parlant de colonialisme, de peuplement dans son article paru dans Haaretz, l'avocat israélien des droits de l'homme, Itai Mack vous a sévèrement critiqué pour un passage de votre rapport dans lequel vous avez écrit « Le sionisme politique considérait la Palestine comme une terre sur laquelle établir un État pour les Juifs par la colonisation
et le colonialisme.
Pouvez-vous comprendre pourquoi cela est perçu comme un déni du lien historique des Juifs avec Israël, comme si les Juifs regardaient le globe en disant « Voilà un bel endroit, allons-nous y installer » Était-ce une erreur? J'ai beaucoup réfléchi, lu et étudié et parlé à des gens qui pensent que oui, dans ce paragraphe particulier, j'ai fait des erreurs. Et je comprends maintenant qu'une simple phrase reconnaissant l'existence d'une histoire juive sur cette terre aurait facilité l'acceptation et la compréhension de mon rapport. Je n'aurais pas dû me contenter de mentionner dans une note de bas de page qu'il existait une communauté juive qui représentait 10% des habitants de la Palestine à la fin du XIXe siècle. Reconnaître que j'aurais pu mettre l'accent sur... sur le lien n'invalide pas le reste du rapport. Rien dans ce lien ne donne une légitimité ou ne permet ce qu'Israël fait dans les territoires occupés. Ceux qui m'ont accusé d'antisémitisme dans le but d'attaquer à la fois mon mandat et ma personne ne méritent pas un instant de mon temps. Mais une personne comme Mac, que j'admire profondément, et j'espère que nous continuerons à travailler ensemble car nous avons une mission importante, je pense qu'il n'a pas compris le contexte et le message de mon analyse. J'aurais pu être plus sensible, pas stratégiquement, car pour moi, ce n'est pas une stratégie pour plaire aux gens d'un côté ou de l'autre, c'est une question d'objectivité et de conscience. Dès que vous ne reconnaissez pas une chose en tant que telle, cela signifie que vous laissez de côté une grande partie de l'histoire du peuple. Pourtant, je ne comprends pas pourquoi les gens s'énervent autant lorsqu'ils entendent le mot « colonialisme ». Il apparaît dans les écrits des pères fondateurs d'Israël. Jabotinsky lui-même a parlé de colonisation.
Oui. Et elle parle de colonisation, de peuplement.
De peuplement, bien sûr.
Voilà. Mais, et effectivement, tu parlais des États-Unis, des Indiens tout à l'heure. Oui, c'est... On cherche à remplacer la population existante.
Oui, suivant Elias Sambar, il y a trois pays qui ont organisé la colonisation du peuplement. Ce sont les États-Unis, Israël et l'Australie. Voilà. Oui. Les autres ont accepté de gérer le pays, pas en bon père de famille, parce que c'était quand oui. même des colons, mais dans une forme de partage, enfin, ou de domination. Oui. Mais pas d'extermination. Alors que dans ces trois pays, ça a été « pousse-toi là que je m'y mette ». Alors, une autre question. Réponse à toi, Jean-Yves.
Le concept de, on lui demande, le concept de colonialisme, de peuplement, est difficile à digérer pour les Juifs d'Israël et du monde entier. Pourquoi avez-vous choisi de l'utiliser ? Donc, réponse, je vous rappelle que mon analyse se limite à l'année 1967. Israël viole le principe fondamental du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Il le fait d'une manière qui vise à nettoyer le plus de territoire possible de la présence et de l'identité palestinienne. Cela s'intensifie avec le nouveau gouvernement actuel, prendre plus de territoire au profit des seuls Israéliens juifs, exploiter les ressources économiques, supprimer l'identité culturelle et politique. Et tout ceci est conforme au modèle et aux pratiques du colonialisme de peuplement en Afrique du Sud, en Algérie, au Canada, dans de nombreux endroits. Parfois, il a gagné, parfois non. Et lorsque j'entends des voix d'anciens soldats, de mères qui ont perdu leurs fils, de personnes en Israël qui vivent dans la peur constante des missiles, je comprends que l'occupation a un prix très élevé pour les Israéliens également. Même si on peut penser... remarque personnelle que c'est pas eux qui en subissent le plus les conséquences.
Oui, mais on peut aussi penser et conclure là-dessus que le Hamas n'est pas un monstre de guerre.
Puis c'est pas un démocrate non plus.
C'est ni une démocratie ni une usine à armes terrible.
La arme de destruction massive.
Non.
Et si la Cour, donc, puisqu'actuellement il y a une demande au niveau de la Cour pénale internationale, si la Cour déclare l'occupation israélienne illégale, est-ce que cela pourrait constituer un tournant dans la façon dont la communauté internationale traite cette question ? Et là, elle répond, j'ai un grand respect et une grande confiance dans l'indépendance des juges de la Cour, et je ne suis pas le seul juriste à avertir que l'occupation israélienne est illégale. Elle est illégale parce qu'elle n'est pas temporaire. Elle n'est pas gérée dans l'intérêt de la population protégée, entre guillemets protégée, là, je pense, et elle s'est transformée en annexion du territoire. Et il existe également des documents qui affirment que l'occupation est illégale parce qu'elle applique également l'apartheid dans cette région. Ma contribution est que son existence même est incompatible avec le droit à l'autodétermination, et cela, bien sûr, a un impact sur l'ensemble de la communauté internationale. C'est une obligation à laquelle on ne peut se soustraire ni y déroger, même à l'égard de pays tiers.
Je te pose l'autre question. Si je vous comprends bien, l'important n'est donc pas seulement de déclarer que l'occupation israélienne est illégale, cela va de soi. L'important, à vos yeux, est de savoir quelles mesures les États membres des Nations Unies prendront pour mettre fin à cette situation.
Voilà. Donc, la réponse est oui. Quelles seront les conséquences juridiques? Car la loi est très précise à ce sujet. Si on prend l'Ukraine, aurions-nous besoin d'une décision de justice pour déterminer que l'occupation de la Crimée est illégale, ou déclarer que la guerre de la Russie, que la Russie mène en Ukraine, est contraire au droit international? Non, on n'a pas besoin de décision de justice, car l'Ukraine est un pays souverain et la souveraineté appartient au peuple. Alors, les gens disent, en Palestine, il n'y a pas de pays là-bas. Mais ce n'est pas vrai. Il existe un État de Palestine qui est né en captivité et n'a jamais pu s'épanouir. Et même avant cela, il y avait un peuple palestinien, et sa souveraineté en tant que peuple, en tant qu'entité légale, a été reconnue donc depuis 1919. Le tribunal doit ici être utile et fournir des orientations.
C'est tellement vrai qu'il y avait une monnaie palestinienne. Quand on frappe monnaie, on est un État.
Tout à fait. Et donc elle dit, ce qui est important, c'est de reconnaître la situation actuelle. Et ce n'est pas une guerre entre deux pays, c'est une occupation. Il y a un occupant et un occupé. Il existe une loi qui oblige chaque État membre de l'ONU à ne pas reconnaître une situation illégale. Exemple, les colonies, elles constituent un crime de guerre selon le droit international. Par conséquent, tout produit provenant des colonies ne doit pas être considéré comme normal. Il ne suffit pas d'apposer une étiquette indiquant qu'il provient des colonies. Il doit être strictement interdit sur les marchés internationaux. On ne doit pas encourager ce que fait une occupation illégale. Elle va dans le sens du BDS, finalement. Hein. Comme quoi, on a raison quand on dit « n'achetez pas israélien ». Et donc, de nombreux pays disent « nous sommes les amis d'Israël ». Non, vous n'êtes pas les amis d'Israël. Donc là, elle parle de son pays aussi, l'Italie. Ce n'est pas une bonne chose d'insister pour rester sur la voie de l'illégalité et de l'impunité. Tout ça n'est pas dans l'intérêt du peuple israélien. Voilà.
Alors,
je ne sais pas s'il nous reste encore du temps.
Non, il nous reste exactement 6 minutes. Parce que...
D'accord.
Voilà.
Alors,
donc, je continue.
On continue à ça ? Vas-y.
Et la question est, où en sont les choses concernant votre entrée en Israël ? Elle répond, soyons clairs, je n'ai jamais demandé à entrer en Israël, je dois entrer dans un territoire qu'Israël occupe et sur lequel il n'a pas de souveraineté. Bien entendu, j'ai intérêt à coordonner ma visite avec les autorités israéliennes en tant que puissance occupante. Les rapporteurs précédents se sont rendus dans les territoires occupés avec leur passeport sans avoir à demander un quelconque consentement préalable. S'ils veulent que je fasse une demande, je la ferai. Je pense toujours que j'ai le droit d'annoncer ma visite, d'atteindre la frontière et que mon entrée soit autorisée. La seule chose est qu'ils ne peuvent pas garantir ma sécurité à 100%. Je m'en occuperai moi-même, je prendrai le risque. Je n'ai pas insisté et pendant 2 mois, je n'ai rien entendu de la part des autorités israéliennes. C'est très irrespectueux. Je n'ai pas cessé de travailler. J'ai eu des réunions à Amman, mais aussi des réunions en ligne avec des Palestiniens et des Israéliens. J'ai rencontré des mineurs en détention, des parents d'enfants tués par les tirs israéliens et dont les corps n'ont jamais été restitués. Des Israéliens et des Palestiniens m'ont fait faire des visites virtuelles. Si Israël pense qu'il va m'empêcher d'obtenir ces informations, il se trompe. Je trouve que, d'une manière étrange, la guerre contre moi crée des occasions pour moi d'entrer en contact avec des Israéliens parce que les gens sont curieux. Je n'aurais pas bénéficié d'une telle exposition si mon mandat n'avait pas été aussi controversé. avant de me parler, les gens pensent que je suis une sorte de créature diabolique dont le seul but est de ternir Israël et les Israéliens. Puis ils me parlent et réalisent que je suis un être humain ordinaire, un avocat qui enquête sur les faits, les analyse et les commente d'un point de vue juridique. Je peux me tromper, comme tout un chacun, mais il y a en moi un désir profond, vrai et sincère, de voir le droit international appliqué dans ce pays torturé, parce que je vois vraiment un potentiel pour que les gens puissent vivre en paix. Je le vois vraiment, et je ne vois pas d'autre moyen d'y parvenir que par le respect du droit. Voilà.
Eh bien, elle est optimiste, c'est pas évident.
Voilà. Alors, Jean-Yves, tu peux, il reste 3 minutes, hein. Donc tu prends la suite là, mais il faut.
Alors, j'ai trouvé aussi un autre article dans Trilogue News. Il y a Alina Levy, que c'est une actrice que je ne connaissais pas, et qui dit: en tant que femme et en tant que non-juive, j'ai peur de vivre dans ce pays. Et j'ai peur qu'un jour vienne où une loi sera adoptée qui me dira de quitter le pays parce que je ne suis pas juive. Donc elle parle de la réforme juridique en cours, en projet en Israël. Les effets de la réforme juridique, dont certains projets de loi ont été adoptés en première lecture, préoccupent les citoyennes israéliennes peu représentées dans la coalition gouvernementale actuelle. Et cette actrice, invitée sur la chaîne N12, a partagé ses inquiétudes en tant que femme israélienne non juive, se demandant si elle conservera les mêmes droits que les citoyens juifs. Et la Cour suprême, c'était elle qui protégeait les droits de l'homme, ni de droite ni de gauche, encore que on peut en douter dans certaines décisions qui ont été prises. À partir du moment où la réforme sera votée, l'opinion politique sera impliquée. Et en tant que femme, malheureusement déjà minoritaire en Israël, et en tant que non-juive, j'ai une réelle peur de vivre dans ce pays. J'ai peur qu'un jour vienne où une loi sera adoptée qui me dira de quitter le pays parce que je ne suis pas juive. Donc voilà, alors le problème en fait vient de ce que Israël n'a pas de constitution, et il y a juste quelques lois fondamentales, comme ils les appellent, qui définissent le fonctionnement de l'État. Sauf que s'il n'y a pas d'instance supérieure pour mettre des garde-fous aux décisions d'une assemblée de députés, hein, même si elle a été régulièrement élue, voilà, on peut imaginer qu'un jour, il y en a qui ont dit on retrouve des relents de ce qui s'est passé en 1933, 1936 en Allemagne.
Voilà.
C'est pas rien d'entendre ce genre de.
Ouais, absolument.
Surtout dans la bouche d'Israéliens.
Voilà. Comme une secte globale, et qui n'est pas adhérent à la secte ne veut pas rentrer.
Voilà.
Bon, ben. À bientôt. Au revoir tout le monde.
À bientôt,
Jean-Yves.
Au mois prochain.
Au mois.